Votre source d'information le matin. Voici Catherine Gaudreau. Que la Mauricie se lève. Au 106.9 Mauricie.
Vous le connaissez, vous appréciez ses analyses, chercheur associé à la chaire Raoul Dandurand, spécialiste de la politique américaine. Bonjour Raphaël.
Bonjour Catherine.
Bon, là, fin de semaine, il était dans un rassemblement au Nevada, donc ça c'était samedi, et il a bel et bien dit ça, là. Lui, il veut négocier un troisième mandat. Raphaël, premièrement, dans l'histoire, on se rappelait, là, c'est arrivé une seule fois, hein, puis un contexte bien particulier à l'époque de Roosevelt.
Oui, c'est-à-dire, mais premièrement, à l'époque de Roosevelt, il n'y a pas eu de négociation pour obtenir un troisième mandat.
Non.
Le président Roosevelt en a gagné un. Déjà en partant, Catherine, je pense qu'il y a un gros bémol à mettre. Premièrement, d'un point de vue constitutionnel, juste pour expliquer à tous ceux qui nous écoutent, comment ça fonctionne aux États-Unis, il y a un amendement, qui est le 22e amendement de la Constitution, qui a été passé au milieu du 20e siècle, après la présidence de Franklin Roosevelt, qui limite tout président à deux mandats élus. Ça, c'est noir sur blanc dans la Constitution américaine, ce n'est pas négociable, ce n'est pas quelque chose qui peut être remis en question. La seule raison pour laquelle Franklin Roosevelt avait pu faire non pas trois, mais quatre mandats, la raison pour laquelle il avait pu être élu à quatre reprises, c'est que, justement, cet amendement-là n'existait pas. C'est vrai qu'il n'y a pas d'autres précédents avant lui, mais je vous dirais qu'en bonne partie, c'était à cause de conventions non écrites. Donc, par exemple, le tout premier président de l'histoire américaine, George Washington, avait servi seulement deux mandats, mais aurait facilement pu en servir un troisième. En fait, à l'époque, alors que lui voulait quitter après deux mandats, on lui mettait beaucoup de pression pour qu'il reste. Et lui avait choisi consciemment de se retirer parce que, justement, il voulait faire en sorte que les États-Unis deviennent un pays qui n'était pas comme les autres, un pays où, justement, on ne s'accrochait pas au pouvoir éternellement. Et donc, on a eu plusieurs présidents qui ont suivi ce précédent-là. Roosevelt s'est distingué, si on veut, parce que lui est allé chercher quatre mandats consécutifs, mais presque tout de suite après ça, on a passé le fameux 22e amendement qui fait en sorte que, depuis ce temps-là, c'est constitutionnellement interdit pour quiconque de servir plus de deux mandats élus comme président. C'est carrément à ça que Donald Trump s'en est pris en fin de semaine, là.
OK. Mais donc, Raphaël, un président qui veut faire ça, là, qui veut, à la limite, puis là, je vais utiliser le terme abolir, puis tu pourras me corriger, là, abolir, mettons, un amendement. Un, ça, c'est-tu possible? Puis deux, dans la chronologie, ça prend quoi?
Bien, il y a une réponse théorique puis une réponse pratique. La réponse théorique est très, très simple. C'est-à-dire que non, ça ne peut pas être fait. Ça ne peut tout simplement pas être fait. Aussi simple que ça. Il faut réaliser que quand on a quelque chose qui est dans la Constitution, c'est plus fort qu'une loi. La Constitution, ça a préséance sur une loi. Donc non, le président ne peut rien faire. Est-ce que la Constitution peut être changée à nouveau? Oui, ça se fait. Mais le président ne peut pas le faire par lui-même. Il faudrait, pour ceux qui sont curieux, là, ça prend le vote de non seulement la majorité, mais les deux tiers des deux chambres du Congrès, plus les trois quarts de toutes les assemblées législatives des 50 États américains. Autrement dit, c'est excessivement difficile. Et dans ce cas-ci, on s'entend dessus que le consensus aux États-Unis n'est pas assez prononcé pour qu'on modifie cet amendement-là. Donc, la réponse théorique, c'est que non, ça ne peut pas arriver. La réponse pratique, la réponse officieuse, c'est que, écoute, on viole, on brise, on remet tellement de normes en question avec Donald Trump que personne ne peut prédire avec certitude qu'est-ce qui va arriver concrètement là, dans les rues du pays si on a une élection qui est très, très, très serrée, qui est contestée judiciairement, notamment à cause de la question du vote postal, et que ni un ni l'autre de Joe Biden et ou de Donald Trump est prêt entièrement à accepter les résultats de l'élection. Rendu là, personne ne sait exactement ce que ça va donner. Une chose est certaine, par exemple, le simple fait que Donald Trump évoque la possibilité non seulement de se présenter à nouveau pour un troisième mandat s'il devait être élu, mais de négocier, comme si c'est quelque chose qu'on négociait, comme si c'était un deal dans l'immobilier comme dans sa carrière précédente, ça a quelque chose de franchement décapant, puis là, j'y vais de façon très conservatrice. Il y en a plusieurs qui vous diraient carrément alarmant.
OK. Raphaël, je t'amène un petit peu ailleurs. Bon, ça reste en lien, bien sûr, avec ce qui se passe aux États-Unis. On s'approche quand même de cette prochaine élection. Hier, je lisais donc Michael Bloomberg qui veut injecter 100 millions de dollars pour aider Joe Biden à remporter l'État de la Floride. On sait à quel point c'est un État clé. Monsieur Bloomberg, qui est un ex-candidat à l'investiture démocrate, Et je regardais les sondages aussi, c'est très serré dans l'État de la Floride. Mm-hmm. 48,2 pour Biden, 47 pour Donald Trump. Et c'est là à quel point hein, on voit que l'argent, ça, c'est le nerf de la guerre dans une élection aux États-Unis. Mais c'est-tu ça, en bout de ligne, qui fait une différence? Le 100 millions, là, il peut-tu faire jouer d'un bord ou de l'autre?
Quelle bonne question, Catherine. C'est vraiment une bonne question parce qu'il y a plusieurs personnes qui assument, je pense, automatiquement, ou qui présument, je devrais dire, automatiquement que parce que vous avez plus d'argent que votre adversaire, c'est ça qui va faire en sorte que vous gagnez. La réalité n'est pas aussi simple que ça. C'est-à-dire que pour être compétitif dans les élections américaines, ça vous prend un certain minimum d'argent. Okay? Donc, l'argent a une valeur dans la mesure où vous en avez besoin pour être compétitif en premier lieu. Une fois que ça s'est dit, si par exemple vous avez un candidat qui dépense 800 millions et l'autre qui en dépense 700, est-ce que c'est le 100 millions de plus qui va vraiment faire une différence? Là-dessus, les études sont beaucoup, beaucoup, beaucoup moins claires. Autrement dit, on atteint une espèce de point de non-retour après lequel les dollars additionnels qu'on dépense commencent à être beaucoup moins rentables. Donc, dans ce cas-ci, est-ce que 100 millions de plus pourrait faire une différence? Peut-être, peut-être pas. Peut-être dans la mesure où ça va peut-être surprendre bien les gens qui nous écoutent, mais la réalité, c'est que la campagne de réélection de Donald Trump a des sérieuses difficultés financières présentement. Donc, c'est pas comme si lui, il était partout présentement sur les ondes en Floride. Donc, si lui est largement absent des ondes parce que sa campagne a des problèmes financiers, que Joe Biden, non seulement lui, injecte de l'argent, mais qu'il a des alliés comme M. Bloomberg qui viennent en injecter à d'énormes niveaux pour l'aider, est-ce que ça peut justement faire une différence? Oui, c'est possible, surtout dans un contexte où, comme tu le dis, la course est très, très, très serrée. Donc, si on a une course très serrée et qu'il y a vraiment une énorme différence au niveau des dépenses électorales, oui, ça peut être un facteur qui fait une différence au final.
OK. Raphaël, en terminant, est-ce que ce qu'on voit en Floride, là, justement, sondage très serré, pratiquement nez à nez, est-ce que c'est le cas dans plusieurs États clés aux États-Unis? Est-ce que la bataille est très serrée actuellement?
C'est-à-dire que la bataille est plus serrée en Floride qu'elle est dans la plupart des autres États-clés les plus importants. Okay? Et il y a une chose, je pense, qui a traumatisé bien des gens en l'an 2000, c'est-à-dire qu'évidemment, suite à l'élection entre Bush et Gore, où ça s'était joué en Floride, il y en a plusieurs qui pensent que la Floride, c'est toujours l'État qui fait la différence. C'est pas aussi simple que ça. La Floride, c'est un État dont Donald Trump a davantage besoin que Joe Biden. Donc, c'est pas nécessairement l'État qui va faire la différence. Ça va être un des États les plus importants. Mais je te dirais quand même qu'en ce matin, quoi, du 14 septembre, là, à peu près 6-7 semaines du vote officiellement, Biden demeure en avance. C'est pas une énorme avance, mais non seulement il y a une légère avance en Floride, il y a une avance un peu plus confortable pour l'instant dans les autres États, comme la Pennsylvanie, le Wisconsin, l'Arizona, qui, eux, risquent vraiment d'être ceux qui font la différence.
Génial. Merci, Raphaël. C'est toujours hyper intéressant à t'entendre de nous expliquer tout ça. À bientôt.
À bientôt. Bye-bye.
Merci. Bye-bye. Raphaël Jacob, donc spécialiste de la politique américaine, chercheur de la chaire Raoul Dandurand.